France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Françoise Breu. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons un extrait de la sonate pour violon seul, numéro 1 d'Eugène Isaïe, interprété par Sergueï Khachatryan. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours à la Biennale de Venise. Elle nous fera visiter ce soir le bateau musée Art Explora, qui va sillonner la Méditerranée durant 3 ans, faisant escale dans une quinzaine de pays. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron, avec Anthony Thomasson à la prise de son. Bonsoir Françoise Breu.
Bonsoir Arnaud.
On plaisantait avant sur ce nom, le Breu avec plein de R, c'était le premier nom de scène finalement.
Oui, c'était surtout mon nom d'illustratrice que j'avais, voilà. Les...
Combien de R ?
3.
Bon, Breu.
Oui.
Bon, mais là c'est Françoise Breu.
Oui.
Que je reçois ce soir aussi, mais on parlera quand même de Françoise Breu. Vous venez de sortir votre 8e album studio Vif il y a quelques jours. Donc je suis très heureux de vous recevoir à cette occasion pour parler de ce nouveau disque. On va bien sûr en entendre des extraits, mais aussi évoquer vos autres activités créatives. On va essayer d'en savoir un peu plus sur vos méthodes de travail. Donc, c'est pas seulement l'autrice-interprète que je reçois, mais aussi donc la dessinatrice et illustratrice, mais aussi, alors je connais pas encore celle-ci là, comédienne, Françoise Breu. Elle a éclos plus récemment, on l'évoquera tout à l'heure. Alors pour autant, dans cette enfance chère bourgeoise, face à la mer, la musique a déjà une grande place. À la maison, il y a des disques de Brel, de Brassens, d'Alan Stivell, mais aussi un coffret de disques de musique de western qui va nourrir votre imaginaire, ainsi que celui de votre sœur, avec qui vous déguisiez au son de ces musiques. Vous avez quel souvenir de ces moments-là, Françoise Breu?
De souvenirs plutôt joyeux. Voilà, c'était un moment de défoulement. On avait la chance J'aurais aimé avoir voir d'autres films de cinéma autres que les westerns que mon père adorait. Donc évidemment, on suivait un peu ce qu'il aimait. C'était le mardi soir et voilà, on a dû être baigné dans cette ambiance très 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 désuète de ces westerns qui n'étaient pas les chefs-d'œuvre du western américain. Mais en tout cas, la musique, on est rentré. Voilà, on se déguisait par rapport à tout ça et voilà, c'était quelque chose qu'on aimait beaucoup.
Du cinéma, d'autres formes de cinéma, et une autre Madeleine alors de cette enfance cinéphile et musicale. On va écouter une archive de Marlène Dietrich que vous aviez vue, Ange Bleu, qui est devenue plus tard chanteuse malgré elle, comme elle l'explique à André Parrino en 63 sur Paris Inter.
Je ne l'ai pas choisi, on m'a demandé de commencer à chanter sur la scène. Et à ce temps-là, je disais non, parce que ce n'était pas mon métier. Et j'ai beaucoup de respect pour les professionnels. Mais pendant la guerre, j'ai chanté pour les soldats. Et pendant 3 ans, j'ai chanté sur les jeeps, dans les champs, partout. Très souvent pour des hommes qui ne voulaient rien entendre, qui avaient peur et qui étaient plutôt ennuyés. Qu'on venait chanter pour eux. Alors j'ai appris de me battre avec le public et de leur donner ce qu'ils veulent. Et plutôt après la guerre, quand j'avais pas du tout d'argent, parce que pendant la guerre, pendant les 3 ans, j'avais dépensé tout pour les gens qui dépendaient de moi et j'avais plus un sou, je suis allée chanter à Las Vegas. Et j'ai eu cette école merveilleuse des 3 ans. Et c'est pour ça, je crois, que c'était plus facile pour moi de faire cela. Je n'ai pas une voix exceptionnelle ou intéressante. Je crois que je peux chanter des chansons avec des paroles qui me plaisent pour les émouvoir. Je choisis toujours des chansons qui ont une histoire douce. Je n'aime pas les chansons qui parlent seulement des choses qui ne veulent rien dire.
Marlène Détriche, il semblerait, Françoise Breuck, qu'elle fasse partie des inspirations des personnes qui vous ont donné envie d'être chanteuse vous-même.
Bah oui, c'est le film L'Ange Bleu que j'ai adoré, je sais pas, à l'âge de 17 ans, cette ambiance de cabaret des années, je crois, c'est un film des années 30 où ouais, vraiment cette ambiance très 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 sombre comme ça de cette Allemagne là. Oui, juste avant la guerre, mais ça m'a donné, à l'époque, j'avais eu envie avec un ami d'ouvrir un café qui s'appellerait L'Ange Bleu voilà, on avait des rêves de personnes de 17, 18 ans, mais ça n'a pas été très loin, j'ai pas, donc du coup, mais ce rêve était complètement enfoui, moi j'ai fait les Beaux-Arts ensuite et j'avais l'idée de monter un groupe avec des amis, ça s'est pas fait. Et puis voilà, j'ai rencontré Dominica en 92 et ça s'est fait petit à petit comme ça. Mais
vous aussi, vous êtes devenue chanteuse malgré vous, comme Marlène Détriche.
Exactement, oui. Enfin, j'écoutais beaucoup de musique. Voilà, vraiment, mais comme beaucoup de gens en même temps. C'est pas parce qu'on écoute de la musique qu'on veut forcément en faire, mais voilà, mes parents chantaient beaucoup, même si c'est pas du tout une famille d'artistes et de musiciens, absolument pas. La musique a toujours été présente, et même si, oui, j'étais dans un milieu où il n'y avait pas de... C'était dans une petite banlieue avec une MJC où il y avait 2-3 cours de flûte. C'était pas le truc qui faisait rêver. Et en tout cas, la musique, les gens qui apprenaient la musique, qui apprenaient le piano, c'était un milieu plutôt bourgeois. Et on pensait qu'on n'aurait jamais accès à ça, en fait. Et puis voilà, après, c'est les rencontres. C'est une succession de rencontres qui fait que les choses peuvent être possibles. On m'a dit que ma voix pouvait être intéressante, alors je me suis dit, ah bah tiens, essayons. Mais comme moi, j'étais plutôt dans l'illustration et plutôt dans un truc où on est quand même un peu replié sur soi-même, j'avais pas idée de monter un jour sur une scène. C'était pas du tout, j'étais très, très timide, je le suis toujours. Mais c'était pas prévu du tout, du tout.
Pas prévu, et pourtant, alors donc c'est en 97 que vous sortez votre premier album solo, mais écrit et composé par Dominica, qui sera à nouveau présent avec d'autres pour le second, et d'autres encore pour le troisième. Et pendant une dizaine d'années, Françoise Breuck, vous serez donc une interprète, mais aussi comme une chef de projet, que ce soit...
chèvre non, pardon, j'avais mal entendu.
Une chèvre de projet, c'est un nouveau métier. Chef de projet, mais que ce soit en studio, en formant ou en formant les groupes aussi, après, qui vous accompagnent en tournée, avec qui vous allez porter sur scène ces chansons. On pourrait aussi y voir le versant musical de votre activité de plasticienne qui peut assembler, coller, unir des formes diverses. Est-ce qu'il y a comme ça quelque chose qui communique d'un monde créatif à un autre pour vous?
Oui, ça l'est beaucoup, effectivement, par rapport au collage et tout ça. C'est une technique que je pratique beaucoup. C'est un peu... les idées des chansons arrivent, en tout cas, le fond, les thèmes ou les mots. Les mots tombent du ciel. Et je finis par rassembler quelque chose qui peut raconter quelque chose. Je forme une histoire de cette manière-là. Alors... il y a beaucoup d'images. En tout cas, actuellement, avant, je le faisais peut-être pas autant, mais en même temps, si j'ai commencé, même si j'étais juste interprète, je faisais des livres, des petits livres objets que j'exposais parallèlement au concert, et pour un peu donner mon interprétation visuelle des chansons que j'interprétais, pourquoi je les avais choisies, qu'est-ce qui m'avait touché dans les mots de ces chansons. Et ça c'était quelque chose que je commençais à faire, et j'ai continué à le faire vraiment toujours parallèlement. Et en fait, c'est comme si ça donnait du corps, l'image que je produis en même temps donne du corps et appuie le propos de la chanson. C'est un peu ça, quoi.
Et à partir du quatrième album, À l'aveuglette, c'est 2008, là, on commence à découvrir votre écriture. Qu'est-ce qui fait que ça se passe à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre? Est-ce que vous lâchez quelque chose à ce moment-là, Françoise Breu?
Alors, je disais à l'époque que je pensais pas que j'avais forcément des choses à dire, mais j'avais envie d'essayer de dire quelque chose. C'est un peu étrange parce que, je pense que n'importe qui a des choses à dire. Et n'importe qui peut les exprimer d'une manière ou d'une autre. Mais bon, moi, comme j'avais pas la confiance et aussi, les musiciens avec qui j'avais travaillé avant, d'ailleurs c'est bizarrement que des musiciens, j'ai pas rencontré à ce moment-là des femmes, c'est vraiment des histoires de rencontres, je sais pas comment ça se fait. J'étais satisfaite de leur écriture, je trouvais qu'ils étaient, ils avaient vraiment des talents.
C'était pas les plus mauvais.
Après c'est complètement subjectif tout ça, mais moi je les trouvais très très bons et je me disais, à quoi bon m'y mettre moi-même, puisque j'ai des gens qui écrivent très très bien et surtout je me donnais pas l'autorisation de le faire.
Qu'est-ce qui fait que vous donnez l'autorisation?
Eh bien, c'est parce que je n'étais plus satisfaite de ce qu'on proposait et que j'avais l'impression que ça devenait une caricature de moi-même, tout ce qu'on me proposait, mais il y avait des choses intéressantes, mais au bout d'un moment, en fait, je ne sais pas, c'est peut-être parce que ça ne venait plus de moi, j'arrivais plus à chanter ça, donc je me suis dit, allez, vas-y, essaye.
Ça, justement, comme vous dites ça, c'était beaucoup des chansons d'amour, tristes, de séparation, de rupture. Et c'est vrai qu'avec un autre album, La chirurgie des sentiments, en 2012, là, on a commencé à voir une autre Françoise Breu, plus légère, où la gaieté s'invitait. C'est ça aussi ce que vous venez de dire, c'est l'avantage d'être autrice, c'est qu'on donne la couleur à son album.
Oui, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à chanter des choses trop dramatiques, trop noires. Évidemment, il y a eu un disque de séparation. Donc, toutes ces choses-là, c'était derrière moi. Je voulais surtout jouer avec le langage, jouer avec l'écriture, même si vraiment un super novice, mais j'avais vraiment envie de jouer avec ce matériel.
Sixième album, j'avance dans le temps pour nous rapprocher de Vif. Il est important à mes égards, on est en 2015, vous l'avez enregistré Zoo, il faudrait peut-être dire Zoo, à Bristol, avec Adrian Utley, le guitariste de Portishead. C'est un disque qui sortira en 2016. Et dans les musiciens de la tournée se trouvent Roméo Poirier et Marc Melia, qui sont impliqués sur les deux derniers albums en date. Et déjà, sur Zoo, il y a ce désir de sortir, de s'échapper. Il y a des forêts, il y a déjà du végétal qui est là, des motifs qu'on va retrouver dans ce nouveau disque Vif. Et à titre d'exemple, on écoute tout de suite un premier morceau issu de ce nouvel album, Crever l'asphalte.
Je me déploie, contourne les obstacles parfois. Des rejetons me poussent bien bas. Je ne les retiens pas, je ne les retiens pas. Ah. 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 Le tarmac au-dessus de moi se fendit, craque comme le bois. Je fouille le sol de haut en bas. Délie mes tiges, déploie mes doigts. Lève mon veines d'eau, larves en fils ben glissent sur le dos, reste d'écailles et vermisseaux, sans queue ni tête, suivent le flot. Comme des grésillements, les graines éclatent, tremblent et s'agitent. Les vers enroulent leur corps limite, les zones humides font des ruis. Oh, oh.
Alors, pour mieux comprendre ce désir de crever l'asphalte, titre de ce morceau qu'on vient d'écouter, Françoise Brault, il faut revenir à l'avant-dernier album, Flux Flou de la Foule, sorti en 2021. Alors, ça faisait à ce moment-là 20 ans, vous viviez dans le centre-ville de Bruxelles, alors loin de la Manche, de votre enfance, loin de la mer, en pleine ville, vous y avez vécu des confinements, de la pandémie. Vous avez eu l'envie, le besoin, la nécessité à ce moment-là de regarder au plus près de vous, c'est-à-dire de regarder la ville.
Au moment du flou-flou de la foule,
ouais.
Il y a pas que la ville dans ce disque-là. C'est vrai que, je me souviens plus très bien. Et non, je parle de l'enfer aussi. Il y a une chanson sur la chute des damnés. Il y avait
quand même.
Un peu de d'oppression, ouais. Et de d'envie d'aller voir ailleurs ce qui continue à vivre autour de nous, et malgré les promesses, c'est pas une promesse, les promesses d'effondrement, c'est pas une promesse, promettre l'effondrement, c'est une drôle de
les
promesse.
Inquiétudes dans
les inquiétudes, voilà, essayer d'aller voir ce qui grouille, ce qui continue à grouiller, voir tout ce qui est petit et qui continue, ce qui est invisible, essayer de sentir les choses, enfin voilà.
Mais de ce fait, vif, c'est comme un prolongement, un flux flou de la foule.
Oui, c'est
la
peut-être...
Parce que de l'inquiétude, il y a cette envie d'aller chercher des réponses.
Oui, c'est... En tout cas, c'est tombé comme ça, comme une évidence, à un moment où les tournées sont terminées. Moi, j'ai eu du mal à faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire faire des concerts et réfléchir à une suite. En général, quand un disque est terminé, j'ai l'impression que tout va s'arrêter, que c'est le dernier disque de ma vie et que j'arrête tout parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Et en fait, à un moment, voilà, qu'est-ce qui a encore un sens aujourd'hui? De quoi je pourrais parler? Qu'est-ce que c'est de chanter? C'est la joie, chanter des choses dures, dramatiques, c'est sans espoir, j'ai pas envie, j'ai pas envie de ça. D'ailleurs, envie, nous sommes en vie, et voilà, tous ces questionnements sur le fait de encore chanter quelque chose pour vivre, quoi, tout simplement.
Alors, envie, on reste en vie après la mort, si je puis dire, parce qu'on parle beaucoup de recyclage dans nos villes polluantes, polluées. Le recyclage, c'est une invention de la nature, hein. On a peut-être tendance à l'oublier, mais voici une ode au verre, extrait de votre nouveau disque.
Entre la terre et l'argile, la microfaune se faufile, au ras du sol s'agite, agile, polyfragments et fossiles. Dans les entrailles de la terre, on s'enfonce. repousse sous ta trêve droite. Entre la terre et l'argile, la microfaune se faufile, au ras du sol s'agite, agile, polyfragments et fossiles.
Ode au vert, pour nous rappeler à quoi nous attendre, à quoi on peut servir plus tard, après notre mort sur cette terre, Françoise Brum. Alors très concrètement, pour revenir un peu à la pratique, au fil des années, comment est-ce que a évolué votre approche de la composition musicale ? Alors vous avez expérimenté, travaillé avec différents type de musicien, différentes façons de faire. Comment est-ce que vous transmettez vos désirs aux musiciens avec qui vous travaillez ?
Eh bien, en discutant, en se mettant autour d'une table. Et puis, en fait, moi, je voulais... Donc là, ça fait quand même 8 ans que je travaille avec Roméo et Marc. Et François est arrivé après, par la suite, le bassiste-guitariste. J'avais envie, puisque le disque précédent s'était terminé pendant le Covid, il a été produit par Marc Melia qui a vraiment finalisé vraiment tout lui-même, alors qu'il y avait des choses qui avaient été enregistrées live et tout ça, mais c'est un disque beaucoup plus produit. Et là, on voulait vraiment, moi, je voulais retourner à créer de la musique ensemble dans une pièce. À l'ancienne, en fait. C'est ce que tout le monde a toujours fait, sauf que aujourd'hui on est dans une époque où les gens s'échangent des fichiers, où tout le monde est dans des projets, et c'est difficile parfois de réussir à se rassembler, aussi parce que faut avoir un endroit pour travailler. Moi, j'ai pas de studio, j'aimerais bien avoir une pièce où on se réunit régulièrement, et sauf que voilà, c'est des trucs pratiques qui fait qu'on peut pas toujours se réunir, mais en tout cas là, on s'est mis dans une pièce, on a décidé, voilà, on trouve un endroit et on travaille et on prend le minimum d'instruments pour pour commencer. En se disant non, on essaiera de rester dans le truc le plus minimal au niveau pas mettre des pistes en plus de. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On s'est mis dans une pièce, on a improvisé. Parfois, moi, j'arrivais avec... j'avais déjà mes textes, des petits textes, des bouts de textes qui étaient écrits, de 2-3 paragraphes. Et puis, parfois, j'arrivais avec une petite mélodie que j'avais composée avec un clavier, un vieux clavier. Et je leur proposais. Et puis, ensuite, à partir de ça ils faisaient évoluer le morceau de cette manière-là. C'est comme ça qu'on a fait pour ce disque-ci.
Oui, mais c'est ce que vous dites aussi qui est important, Françoise Brum. Ça fait 8 ans que vous travaillez avec deux des musiciens qui sont dans ce disque, mais ça permet de... On repart pas à zéro, c'est-à-dire qu'on a cette base commune et que quand vous apportez cette petite mélodie, ils entendent ce qu'ils doivent entendre.
Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi une histoire de confiance. C'est-à-dire que moi, je ne sais jamais au départ ce qu'on va faire. Et le fait de rassembler ces trois musiciens qui s'entendent aussi très très bien, parce que ça, c'est quand même très important. Hein. C'est pas des gens qui se regardent en chien de faïence, à savoir « Et toi, t'as fait quoi ? Et c'est bien, et moi, c'est mieux. » Enfin, voilà, c'est une entente vraiment... commune, et le fait de voir cette entente, c'est aussi une grosse partie du travail. C'est que c'est vraiment une histoire de confiance que tout le monde va proposer, qu'on n'aurait vraiment pas imaginé, ou des choses que, au départ, moi je vais peut-être pas trop aimer, mais je vais finir par accepter, et finalement, ça se construit comme ça petit à petit. Et ça, c'est super intéressant à voir comment les morceaux vont évoluer petit à petit.
Mais cette ébauche de texte, elle est quand même, là ce qu'on vient d'entendre, l'ode au vert, forcément c'est quelque chose qui va être plus dans une sorte de douceur, comme une fausse berceuse. Ça, les paroles induisent cela ?
Oui, oui, évidemment. Après, on peut très bien faire un morceau avec un contenu très très dramatique, mais on va l'enrober d'une musique super joyeuse, ça c'est possible aussi. Évidemment, oui, le sujet va influencer le rythme, la mélodie, la couleur. Ça c'est sûr, et ça c'est intéressant de voir ce qui va se passer et quelle partie on va prendre, quoi.
Alors, il se trouve que je recevais dans cette émission le 12 février dernier Flavien Berger. On va reparler de lui avec vous dans un instant. Je lui demandais comment, comme je le fais avec vous, hein, comment est-ce que naissaient ces morceaux. On allait écouter ce jour-là une chanson de son nouvel album qui s'appelle Sapon, et je lui demandais qui de la musique ou des paroles était arrivé en premier. Sa réponse.
Ben, c'est corollaire aussi, c'est qu'il y a des mots qui sont écrits dans un coin, et puis il y a une musique qui est composée dans un autre, et à un moment ils se rejoignent, mais bon, il y a quand même des mélodies. Si je devais être tout à fait honnête, c'est quand même musique d'abord, et puis les mots viennent quand même colorier les mélodies que j'avais. J'aimerais bien un jour faire du vrai songwriting où tout arrive d'un coup, comme un peu dans la folk, quoi. Le message est aussi important que la forme, j'adorerais ça. Le fait est que c'est pas encore comme ça que je travaille, et Sapon, ce morceau, c'est un peu mon essai de ce disque-là, c'est un peu le vrai premier degré, quoi. C'est raconter des trucs que j'aime faire, parler de sensations, donc ça serait peut-être un peu autobiographique, enfin c'est carrément autobiographique, c'est des trucs que je vis et que j'ai envie de faire partager et qui peut-être sont pas si anodins que ça, en fait.
Alors, si on a écouté Flavien Berger, c'est pour plusieurs raisons. C'est notamment, parce que vous avez dit, Françoise Bruck, écouter Flavien Berger, notamment pour dessiner, ça pouvait nourrir votre dessin. Et puis, il vient de dire que les mots viennent colorer les mélodies. Faisant une analogie que j'avais évidemment envie de vous proposer, à vous qui êtes à la fois musicienne et illustratrice, comment est-ce que vous entendez cette idée que les mots colorent les mélodies ?
Oui, je vois tout à fait de l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais
est-ce que les mots ont une couleur pour vous ?
Bah oui, évidemment, elles ont des images et les mots ont des images et des couleurs. C'est sûr. Alors après,
c'est la subjectivité totale, ça. Un mot pourra avoir une couleur pour vous, une autre pour moi.
Ça, c'est sûr. De toute façon, la musique, c'est... Les goûts musicaux, la musique, c'est totalement subjectif. C'est totalement... c'est très personnel, donc...
Mais j'en profite quand même pour faire cette petite parenthèse, pour aller vers le dessin, l'illustration. Vous disiez tout à l'heure, pas pouvoir mener deux choses en même temps. Du coup, il y a quand même beaucoup de travaux de Françoise Bruck qui, du côté de l'illustration, du dessin... Alors, ça s'inscrit à des moments où vous ne faites pas de musique ? Est-ce qu'il y a une sorte de compartimentation de vos activités ?
Ah bah oui, je ne pourrais pas dessiner tout en chantant. J'ai fait ça lors d'une répétition il y a vraiment longtemps. On était en répétition et j'avais installé ma table à dessin et quand on avait besoin de moi, je chantais. Mais comme c'était pas moi qui était le leader, je pouvais me permettre ce genre de choses. Mais évidemment, en fait, quand même, même si le dessin, quand je dessine, je peux écouter la radio
et Flavien Berger
et d'autres. Et plein de super émissions qui me nourrissent, J'ai dans mon geste, il y a quelque chose qui se passe, qui est beaucoup plus dynamique. J'ai du mal à ne rien écouter quand je dessine, parce que c'est aussi parce que voilà, si je n'écoute rien, il y a mon cerveau qui part mon cerveau, tout le bazar qu'il y a dans mon cerveau, j'ai pas envie, donc j'écoute la musique ou les émissions, mais tout ça pour dire, je sais plus.
Mais tout ça pour dire que quand vous êtes en préparation d'un album, en enregistrement, quand vous sortez du studio ou de la pièce où vous êtes réunis, le soir vous dessinez pas.
C'est pas tous les jours, non. C'est pas une pratique. Ça dépend vraiment. Bah évidemment, en plus, il me faut quand même mon petit atelier. Je me trimballe pas. Ça m'est arrivé en tournée quand même de dessiner. Je me rappelle j'avais un projet de livre et je devais le terminer. Et je faisais un festival à Barcelone et j'avais été à l'hôtel dessiner. J'avais dû prendre avec moi. Mais ça, bon, pour l'instant, c'est pas.
Mais est-ce qu'il y a une forme d'équilibre aussi quand même entre ce qui est la pratique du dessin, qui est enfin, forcément une pratique assez solitaire, Françoise Breu, et cette pratique collective de la musique? Est-ce que ce sont les deux jambes qui vous sont nécessaires pour tenir debout?
Oui, parce que les moments où je suis pas dans la musique, dans les concerts en tout cas, dans la répétition ou dans l'écriture de texte, j'ai besoin de me concentrer sur autre chose et c'est je suis toujours contente de travailler sur des projets. Il faut que j'ai des projets en cours en fait, parce que je peux pas travailler dans le vide. Je suis pas je travaille pas sur un sujet comme un peintre qui va peindre des paysages, ou c'est un exemple bateau, mais j'ai besoin d'une histoire pour me concentrer sur le dessin aussi.
On va revenir à ce nouvel album, Vif, qui vient de sortir. Alors bien sûr, les animaux y ont leur place, pas seulement les vers de terre. On va écouter dans un instant Cavales Animales, Françoise Breu. On va en parler pour se servir de cet exemple-là, de votre écriture. Comment est-ce qu'il naît le texte de cette chanson, en l'occurrence, est-ce que vous en souvenez?
Oui, je pense que c'est... évidemment, c'est à l'époque où les villes se sont tout à coup vidées, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, où on n'avait jamais vu ce phénomène quand même impressionnant. Et je me suis imaginé, on a vu des images partout, de soit des renards, soit des cerfs, des cerfs peut-être pas, moi je... J'ai des images comme ça. Est-ce que c'est des images
biches,
que j'ai
inventées?
Oui, des biches. Alors,
voilà,
plutôt des biches, parce que des cerfs, c'est encore, j'imagine, une horde de cerfs qui traversent les Champs-Élysées. Moi, j'ai un autre paysage en tête de ville, mais La place de Brocaire, oui. On a vu des images comme ça dans des villes complètement désertes, et je me suis imaginé que les hommes avaient complètement disparu et que c'était les animaux qui allaient prendre la place.
Et musicalement, ça vient comment?
Je crois que c'est une idée de Roméo. C'est parti d'un clavier. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce qu'au bout d'un moment, on arrive à... J'oublie peut-être moins les points de départ des sujets, mais les points de départ musicaux, je crois que je les ai notés dans un carnet en me disant « Oui, ça, c'est le point de départ, ça c'est François, ça, c'est Marc. » Et puis, parfois, c'était vraiment les trois ensemble. Mais celui-là, oui, je crois que c'est Roméo.
On écoute « Cavales Animales ».
Cette nuit-là, le bruit de leurs sabots sur les pavés résonnait. On aurait dit qu'au ralenti, ils se déplaçaient. Que voulaient-ils voir de la ville? Le monde semblait la fois déserté. Des lièvres couraient sur le velours, des routes suspendues dans l'air se frôlaient leurs fourrures, les feuillages secs et les buissons assoiffés bruissaient dans un tintement, offraient une musique étrange. Plus rien ne pourrait les effrayer.
Cavales Animales, extrait de ce nouvel album de Françoise Breu, Vif, sorti il y a quelques jours. Alors, on parlait tout à l'heure du fait de porter à la scène les morceaux créés en studio. Avec ce disque-là, finalement, il y aura assez peu d'adaptations à faire, puisque l'envie, c'était de retrouver l'idée du groupe qui joue ensemble. Pour autant, vous allez donc jouer mardi prochain, le 30 avril, au New Botanique à Bruxelles, un peu plus tard, le 27 juin, au 3 à Baudet, à Paris, on aura d'autres dates ensuite. Vous avez déjà eu l'occasion de jouer devant un public, dans une salle, ces nouveaux morceaux ?
Non, on a juste joué un festival qui s'appelle Francophone en octobre, quelques nouveaux morceaux, mais pas juste quatre morceaux, nouveaux morceaux, mais pas à l'entièreté, non.
Mais l'idée, c'est que effectivement, il y avait une vraie suite, sans arrangement particulier, parce que vous avez pu enregistrer format live.
Oui, c'est ça, en fait. C'est aussi, on pense toujours à être le plus léger possible quand on part en tournée. Puisque, enfin voilà, on va jamais en tourbus, nous, on est dans un petit van, ou si on pouvait être dans une petite auto, ce serait encore mieux. Mais donc voilà, c'est continuer à porter le disque comme on l'a, évidemment. Je pense qu'il y aura quand même des surprises, sinon c'est pas la peine de venir au concert. Moi, je vends très mal les concerts. Ne venez pas, ça va être pareil.
Ça va pas être pareil.
On aura des invités aussi et...
Et puis, il n'y aura pas que les derniers morceaux, évidemment, en date. Mais à propos de scène, quand même, j'aurais quand même évoqué cette adaptation en conte musical de Little Nemo, La vocation de l'aube de Winter, d'après Winsor McCay, qui est un de vos auteurs, je crois, fétiches, Françoise Breu. C'est un spectacle qui avait été, comme beaucoup d'autres, reporté pour cause de pandémie, mais que vous avez finalement joué en 2022, mise en scène d'Émilie Caplier. Vous y jouiez et chantez. Est-ce que vous avez découvert un nouveau plaisir de la scène ? Vous avez un grand sourire. J'aurais rien qu'à repenser à cela, j'ai l'impression.
Ah oui, bah c'était une super expérience, évidemment. J'ai découvert ce que c'était le théâtre, le travail du théâtre, de la mise en scène. C'était absolument pas prévu, encore une autre chose pas prévue, puisque Émilie Caplier m'a invité à créer des chansons autour de certaines planches de Winsor McCay, qui était un auteur de BD du début du siècle, qui a beaucoup influencé les dessinateurs de BD de par ces planches découpées d'une façon un peu psychédélique et c'était évidemment, quand elle m'a proposé ça, j'étais super intéressée, parce que c'était tellement foisonnant au niveau des sujets qu'il y avait dans les planches et tout ça, que ça m'a vraiment intéressée. Mais sauf qu'elle m'a dit, tu joueras aussi. Je dis, ah bon? Mais j'avais déjà eu une petite expérience dans une autre pièce de théâtre de Julie Ray pour jeune public aussi. Bon, là, c'était tout public, mais, donc j'avais déjà eu une petite expérience de voir comment on travaille la dramaturgie, tout ça. C'était totalement nouveau et super super intéressant, parce que nous, quand on fait de la musique, tout ce qui est scène, il y a moins de travail. C'est un travail de répétition de musique, d'aller jusqu'au bout de choses très très fines au niveau musical, mais on travaille pas la scène, quoi. C'est quelque chose que j'ai pas du tout appris. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, quoi, de voir le début du travail, de lire un texte et voir comment tout ça va se transformer avec les décors, les costumes. Enfin, tout ça, c'était super intéressant.
Il y a une possibilité que ce soit repris ?
Non, pas du tout. En fait, ça a été joué 67
quand même.
Fois. Donc 67 ou 65, je me trompe peut-être, mais en tout cas, on l'a beaucoup joué. Donc non, à un moment...
Ça s'arrête. Vous avez envie de recommencer ce type d'expérience ?
Ah oui, moi je suis toujours intéressée par de nouvelles expériences, mais autres que artistiques d'ailleurs.
Bon, le message est passé. Pour l'heure, je rappelle qu'il y a ce nouveau disque qui vient de sortir, Vif, qui a ce concert mardi prochain, 30 avril, aux Nuits Botaniques à Bruxelles, le 27 juin, au 3 Baudet à Paris. D'autres dates suivront, bien sûr. Merci Françoise Breu d'avoir été notre invitée.
Merci Arnaud.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Aux côtés de son contemporain Antonio Stradivari, Guarnieri del Gesù est considéré comme l'un des plus grands luthiers de l'histoire. Issu d'une famille de luthiers de Cremone, dans le nord de l'Italie, il a fabriqué des violons passés à la postérité. C'est le cas d'un modèle de 1740 dont Eugène Isaïe fit l'acquisition et sur lequel il joua pendant plus d'un quart de siècle. Violoniste mais aussi compositeur et chef d'orchestre, le virtuose belge écrivit 6 sonates en hommage à Jean-Sébastien Bach et inspiré, du moins pour la première d'entre elles, par le jeu du Hongrois Joseph Szigeti. C'est cet ensemble qu'un autre violoniste, Sergueï Khachatryan, reprend dans un disque édité sur le label Naïve. Grande figure internationale du violon, il a eu la chance de livrer cet exercice sur l'instrument du maître, désormais propriété de la Nippon Music Foundation. Avec le final de la sonate numéro 1, l'instrument, vieux de près de 300 ans, sonne encore à la perfection. C'est notre son du jour. C'était le final de la sonate numéro 1 pour violon seul en sol mineur d'Eugène Isaïe, interprété par Sergueï Khachatryan.
France Culture, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ce soir ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Venise car débute ces jours-ci la Biennale d'art contemporain, le grand rendez-vous européen et maintenant mondial autour de l'art contemporain, se passe à Venise tous les 2 ans. Ça alterne avec une Biennale d'architecture cette année. C'est donc l'art contemporain qui est à l'honneur. Et en marge de la Biennale, il y a de nombreux événements, de nombreux artistes qui souhaitent également être présents et de nombreux projets. Alors je vous propose aujourd'hui de monter dans un grand bateau. La voile vient d'être dépliée à l'instant alors que je vous parle. C'est le bateau de la fondation Art Explora. Et c'est un bateau musée, à quai dans plusieurs ports de Méditerranée, donc pendant la Biennale ici à Venise. Je vous propose d'aller visiter les différentes œuvres qui s'y trouvent.
Je m'appelle Bruno Julliard et je suis le directeur général de la Fondation Art Explora.
Et la Fondation Art Explora propose ici à Venise, pendant la Biennale, une exposition d'un type un peu particulier parce que là, nous sommes sur un bateau.
Absolument, nous sommes sur probablement le premier bateau musée au monde, en tout cas le premier bateau catamaran voilier, très grand catamaran voilier, qui a été construit exclusivement pour devenir un musée, donc un bateau musée, qui va voguer de port en port, d'abord pendant 3 ans en Méditerranée, à la rencontre de la population sur différents ports de Méditerranée, puis dans les années qui suivent, probablement dans d'autres régions du monde, avec des expositions à son bord pour aller à la rencontre du public et proposer des expériences culturelles et artistiques gratuites pour des publics très différents.
D'où viennent les œuvres ?
Alors, les œuvres vont être assez différentes d'une étape à l'autre. Là, nous sommes à Venise, donc on a voulu, pour la particularité de l'ouverture de la Biennale d'art contemporain de Venise, on a voulu créer une sorte de pavillon méditerranéen. Donc nous avons invité à bord des artistes contemporains du bassin méditerranéen. Et donc on a commissionné des œuvres, vous en verrez 5 ou 6 à bord du bateau. Sur la plupart des étapes, une vingtaine d'étapes que nous allons organiser dans 15 pays différents du bassin méditerranéen, donc pendant 3 ans, nous aurons une programmation très différente. Et notamment dans la salle principale du bateau, nous aurons une œuvre immersive réalisée à partir des collections du musée du Louvre sur la représentation des femmes dans l'art, de l'Antiquité à l'art contemporain.
Vous nous montrez quelques œuvres ?
Bien sûr, avec grand plaisir.
Merci.
Alors là, nous nous trouvons sur l'arrière du bateau. Un mot d'ailleurs sur le bateau. C'est un voilier catamaran qui a été conçu en Italie avec un beau pavillon français, c'est-à-dire un beau drapeau français. Nous avons là deux écrans qui, en fait, vous vous dites pourquoi avoir mis un écran si important au milieu de cette salle ?
Mais oui, pourquoi ?
Très bonne question.
Très bonne question.
Très bonne question. Pour une raison simple, c'est que derrière ce très grand écran et ce coffrage, il y a le mât du bateau. Vous êtes à bord du plus grand catamaran voilier au monde, qui fait 47 mètres de long. Et le mât de ce bateau était donc immense, puisqu'il fait 55 mètres de haut. Et donc, il traverse la salle principale. Et donc, on a coffré le mât, non pas pour le cacher, mais pour pouvoir présenter des vidéos d'artistes du bassin méditerranéen. Des courts-métrages d'artistes qui sont invités dans l'ensemble des étapes du bateau dans les 3 années qui viennent.
Bonjour, je suis Renata Poljak. Je suis une vidéaste, filmmaker. Je fais des films et je fais des vidéos. Normalement, je fais des photos aussi, mais bon, ma pratique majeure, c'est vraiment vidéaste, vidéo.
Et donc, un de vos films est présenté ici sur ce bateau. Quel est votre lien d'artiste avec la Fondation Art Explora et avec ce bateau-là ?
En fait, moi, je viens de Croatie. Donc, là, il y a un stop en Croatie, donc à Rijeka.
Ah oui, le bateau va s'arrêter en Croatie.
Le bateau il va s'arrêter en Croatie. Donc, ils ont demandé aux curatrices à Zagreb, à Rijeka, de recommander quelques artistes. Donc, du coup, elle nous a recommandé et puis ils ont choisi que c'est mon travail qui répond le mieux. Ou l'histoire de Méditerranée, ou l'histoire de la mer et de ce bateau.
Le bateau, donc, vous venez de le dire, va s'arrêter en Croatie. Est-ce que vous pensez qu'une initiative comme ça, c'est-à-dire un bateau musée, peut attirer un public différent, celui peut-être qui ne va pas dans les musées habituellement chez vous ?
Bien sûr. Dès qu'il y a quelque chose qui se bouge, ça va beaucoup mieux qu'un musée. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, les gens, ils ne sont pas si habitués ou aussi intéressés d'aller au musée, mais une fois qu'il y a un bateau, qu'il y a une collection de Louvre, qu'il y a une histoire, qu'il y a une interaction avec de plusieurs pays, qu'il y a genre contemporary art, l'art contemporain qui voyage, c'est toujours plus intéressant qu'un musée national.
Merci beaucoup.
De rien.
Alors là, vous avez probablement l'expérience artistique qui, en tout cas moi, c'est mon coup de cœur, celle qui je trouve est la plus poétique, la plus, et je dirais même la plus belle. En tout cas, c'est celle qui a vraiment qui suscite mon enthousiasme parce que nous avons commandé à l'IRCAM et au Centre Pompidou un voyage sonore en Méditerranée qui dure un peu plus d'une dizaine de minutes. Et des ingénieurs de l'IRCAM, donc ce centre d'ingénieurs du son qui dépend du Centre Pompidou, ils ont reconstitué ou enregistré des sons très divers du bassin méditerranéen, des musiques traditionnelles, des sons de populations dans des marchés, des sons de mosquées ou d'églises, des animaux marins, des animaux terrestres. Et on voyage comme ça pendant 12 minutes, uniquement avec des fonds sonores, finalement, qui s'enchaînent les uns aux autres. Et donc, c'est un voyage très poétique qu'on peut faire sur le toit du bateau. Donc on est
on peut prendre le casque qu'on voit devant nous, on se promène sur le bateau avec le son derrière.
Exactement, et des médiateurs de la Fondation vous expliquent comment marche ce casque. On a juste appuyé sur un bouton, et puis vous vous laissez emporter par ce voyage sonore. Alors, vous êtes sur le toit du bateau, en général, dans des très beaux ports de Méditerranée. C'était le cas à Malte, c'est le cas ici à Venise, à Marseille bientôt. Et puis, bon, comme je vous le disais, dans une quinzaine de pays et 20 étapes. Et donc, on pourra à la fois admirer les très beaux ports du bassin méditerranéen et voyager avec uniquement ce voyage sonore, très poétique, très beau.
Et on voit d'ailleurs des visiteurs avec les casques là autour de nous qui sont en train de vivre l'expérience dont vous nous parlez.
Là, je suis sûr que vous vous demandez, est-ce qu'il est sur une plage de Tunisie ou sur le marché de Tanger ou de Rabat? Je ne sais pas.
Nous irons lui demander tout à l'heure quelle a été son expérience. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous vois avec votre casque sur les oreilles. Qu'est-ce qu'on entend dans ce casque?
Ce sont molti suoni di mare, sabbia.
Ce sont des sons de mer, de sable. Ça fait penser à une plage.
Là, on est sur un bateau. Vous écoutez un casque avec des bruits de mer. Est-ce que c'est une situation particulière d'écouter ces bruits-là sur un bateau?
C'est une situation beaucoup plus immersive que la mer. J'ai l'impression d'être dedans avec les sons.
Et comment vous avez eu l'idée de monter sur ce bateau? Pourquoi vous êtes là? Et vous êtes de Venise?
C'est ma mère qui m'a proposé de venir faire cette visite. Je vis à Venise, mais je suis né à Florence.
Merci beaucoup.
Je m'appelle Frédéric Jousset et je suis le président fondateur de la Fondation Art Explora.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quels sont les objectifs de la Fondation?
L'objectif de la Fondation, c'est d'aller chercher des nouveaux publics, de se battre pour réduire la fracture culturelle, d'aller dans l'angle mort des politiques publiques et des charités privées pour élargir les audiences traditionnelles de la culture.
Et donc pour ça, vous avez choisi des moyens nomades. On était venu il y a quelques temps avec l'émission voir un camion, le Mumo, qui circulait dans plein de villes et de villages en France. Ici, là, on est à Venise sur un bateau. Pourquoi ce choix d'objets mobiles?
C'est toujours cette idée que si les gens ne viennent pas à l'art ou à la culture là où elle est, alors la culture doit se déplacer là où ils vivent. Et donc on passe par la route et on passe par la mer. Et en fait, 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes. Et quand vous regardez la carte de l'Europe, les grandes villes sont souvent des grands ports. Et donc la population est là. Et puis la deuxième chose qui m'a marqué, c'est la fascination des gens pour les grands bateaux. Vous regardez les départs de la route du Rhum, 2 millions de personnes en 15 jours, l'invincible Armada. Et donc voilà, il y a toujours une part de rêve dans ces grands voiliers.
Alors là, on est devant une carte sur le trajet de ce bateau. Ça a l'air assez conséquent comme projet. Il y a plus d'une vingtaine d'étapes. C'est un travail colossal que vous avez accompli pour arriver jusqu'à et ce bateau et cette exposition nomade.
C'est 5 ans de travail en effet, avec une petite équipe en plus, pour créer ce parcours de 20 étapes autour de la Méditerranée, 15 pays, et qui va durer 2 ans et demi. Donc effectivement, plus de 5 ans de travail.
Et alors après Venise, prochaine étape, Marseille je crois?
Marseille, du 6 au 18 juin, donc là, venez nombreux, nombreuses. Ça va être un grand moment parce qu'on va déployer le bateau, mais aussi un village de 3000 m² dans lequel on aura 3 pavillons, une énorme scène, dans lequel on aura des concerts, de la danse, de la performance, mais aussi des conférences. Et puis après, on part au Maroc, Tanger en septembre, Rabat en octobre, et puis après à Malaga. Voilà le programme pour 2024.
Beau programme, merci beaucoup.
Merci.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous?
Demain, Arnaud, dernière étape de notre virée vénitienne, nous irons voir l'une des 30 expositions parallèles à la Biennale, et ce sera celle de l'artiste chinois Xu Teixun.
Merci Marie, et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Rouberti.